France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Si vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Tous les films de ce cinéaste sont prétexte à méditer sur la nature humaine. Et dans celui-là, il y a vraiment de quoi faire. Le pouvoir, la manipulation, le cynisme jusqu'à la cruauté. Tout cela est réuni dans ce film, Le Mage du Kremlin. Bonjour tout le monde et merci. Vous êtes désormais 2 212 000 à nous suivre. On aura vraiment tout vu. Et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à vous tous, nombreux.
Oui, une plongée dans les arcanes du pouvoir, dans un pays en reconstruction, la Russie des années 90, un jeune homme émerge et va devenir un rouage essentiel de ce pouvoir. Bonjour Olivier Assayas.
Bonjour.
Dans votre film Le Mage du Kremlin, vous donnez une dimension visuelle à ce livre de Giuliano da Empoli que vous avez adapté avec Emmanuel Carrère, Poutine incarné par Jude Law. Et face à lui, celui qui va fabriquer ce nouvel homme fort de la Russie. Bonjour Paul Dano.
Bonjour.
Vous êtes celui-là, Vadim Baranov, sa douceur inquiète, son intelligence qui doute, et votre jeu subtil pour appréhender sa complexité. Et bienvenue à votre interprète, Harold Manning. Le Mage du Kremlin sur nos écrans dès mercredi prochain. Enfin, les sorties de la semaine de l'affaire Bojansky à Palestine 36. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
What matters in Russia is your proximity to power.
Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
I want to be part of my time, not just a witness.
Stop making up stories. Start creating reality. We need to invent something new. Russia needs a different brand of politician.
He's young, athletic. He's a spy, KGB. Vladimir Putin. What interests me is power.
Le Mage du Kremlin, Olivier Assayas, une bande-annonce et donc un film en anglais. Alors autant évacuer la question tout de suite, Olivier. L'anglais pour cette histoire russe, sinon le film n'aurait pas existé.
Le film n'était pas pensable. C'est-à-dire que déjà, on partait avec quand même une série de handicaps. C'est-à-dire qu'on savait qu'on pourrait jamais tourner en Russie, ouais, qu'on n'aurait jamais d'accessoires russes, de costumes russes,
d'acteurs russes,
d'archives russes. Ce qui évidemment est on se bat avec juste la main gauche, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est. Ça a été la raison de mes réticences, de mes hésitations, etc. Dans un premier temps, parce que autant j'admirais le livre que j'ai trouvé passionnant du début jusqu'à la fin, sur la géopolitique, sur l'élégance du style, sur l'intelligence de la visionnaire de la politique contemporaine, autant je me disais transposer ça au cinéma, ça va pas être facile.
C'est un film sur le pouvoir en général, en fait, Le Mage du Kremlin. C'est la mise en place des stratégies qui vont changer le cours de la politique moderne, en fait.
Bah, disons que encore une fois, le livre de Giuliano da Empoli se place à l'endroit et au moment où se mettent en place les nouvelles modalités de la politique post-internet, post-social media, ouais, etc. Et où des stratégies différentes commencent à se mettre en place. Et il analyse comment elles se déploient et comment elles vont résonner loin et longtemps au-delà de la Russie de cette époque.
Donc les rouages du pouvoir contemporain, je le disais, auxquels il fallait donner en dehors du livre, construit sur des dialogues, une dimension de cinéma, finalement. C'était ça qui était le vrai défi, bien sûr.
Oui, ça c'est à quoi je me suis attaqué avec mon co-scénariste Emmanuel Carrère. On avait l'un et l'autre, évidemment, cette inquiétude de se retrouver en face d'un livre qui est essentiellement constitué de dialogues, de textes, très bavards, avec relativement peu d'action. Et on pensait que ça serait très compliqué de le transposer. On s'y est attaqué en se disant, si on n'y arrive pas, à un moment donné, on arrête, on laisse tomber, on met ça de côté. Et Et en fait, au fond, on a trouvé des solutions relativement simplement, relativement vite, relativement tôt. Et le film s'est presque déployé devant nous et on l'a écrit en 3 mois, 4 mois maximum, ce qui était beaucoup plus rapide que tout ce qu'on avait imaginé. Et on est arrivé très vite à une version qui répondait aux questions qu'on se posait, qui résolvait l'essentiel des questions qui nous handicapaient initialement. Mmh. À un moment donné, il y a le scénario, on le donne à chiffrer, et il y a l'addition qui tombe.
Mmh. Ouais.
Hein, voilà, et l'addition, elle était forte.
C'est vrai.
Voilà, tout c'est vrai.
Beaucoup
c'est
de documents.
C'est un peu l'histoire de Groucho Marx. Donc,
c'est-à-dire
la note arrive, il regarde la note, il dit « Oh là là, c'est trop cher, si j'étais vous, je ne payerais pas.
» Il y a beaucoup de documentation, effectivement, sur la politique historique, mais il fallait donner une dimension romanesque, c'est ça,
la force du livre, c'est que à travers tous ces dialogues, il a un souffle épique. C'est le premier roman de Julien Donaï-Poli, qui n'est pas un romancier aguerri, mais néanmoins, il a un sens de l'ampleur, et d'une sorte de poésie aussi de l'ampleur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger. Alors d'abord, son talent de dialoguiste, qu'on a mis à profit, parce que beaucoup des scènes avec Vladimir Poutine sont conservées, sinon telles que, en tout cas, très proches de ce qu'il a écrit. Et puis, son écriture a un souffle qui est quelque chose qu'évidemment, il fallait reproduire dans le scénario, et c'était le principal défi, évidemment.
Baranov, c'est vous, Paul Dano, un personnage fictif, mais fortement inspiré d'un certain Vladislav Surkov. Vous avez tout de suite pensé à lui, Olivia Salas, vous avez tout de suite pensé à Paul Dano pour ce rôle.
Oui,
pourquoi?
Vous en parliez tout à l'heure. Il a un visage, des traits qui peuvent passer pour slaves, qui sont slaves, en l'occurrence. Et il a à la fois quelque chose d'une intérêt. Enfin, on lui attribue immédiatement une intériorité, une profondeur, et y compris à travers ses errances morales et éthiques, on persiste à s'intéresser à lui parce qu'il produit spontanément de l'empathie et de l'humanité.
Vous dites, on en parlait tout à l'heure, mais on en parlait en fait avant l'émission, donc il faut un petit peu renseigner nos auditeurs. Je disais à Paul Dano, tiens, en termes d'ascendance, votre père est d'origine slovaque, mère parmi ses origines est tchèque. En fait, c'est pour ça que ça vous donne un physique d'Européen de l'Est, et je vous dis que c'est un compliment. Il y a beaucoup de sang mêlé dans votre ascendance. Paul Dano.
Yes, I suppose I'm a mutt.
Oui, 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 c'est vrai. Je suis, comme la plupart, vous savez, je suis un mélange comme la plupart des Américains.
Yeah, in fact, I also got to do some time ago a BBC adaptation of
War and Peace, the Leo Tolstoy novel. J'ai joué dans une adaptation de Tolstoy, Guerre et Paix, pour la BBC. Et à ce moment-là aussi, on m'a dit ça. J'avais un visage.
Well, good.
Mais bon, très bien.
Alors, Baranov, votre personnage, il y a tellement de choses à dire sur lui, artiste, producteur de télé. Les réalités, puis conseiller officieux de Poutine qui va façonner ses discours, son image et la perception du personnage. Est-ce qu'on peut dire que c'est un personnage à la fois pervers et complice des pires exactions du pouvoir, avec en même temps une certaine humanité ?
Well, I think the interesting thing about Vadim,
ce qui est intéressant sur Baranov,
evil,
c'est qu'il n'est pas né mauvais. Il est le produit de son époque, en partie. Bien sûr, il a fait des choix que, à mon avis, il n'aurait pas dû prendre comme décision, à mon sens. Mais c'est trop facile de le résumer comme étant un méchant, un mauvais. Je ne pense pas avoir essayé de créer de l'empathie gratuitement. Je vois ce personnage, je vois que l'histoire de son grand-père avec les bolcheviks, de son père avec le communiste, et quelque part, il veut être, faire partie de son temps plutôt que d'être avalé par son époque. Et donc, quelque part, ce côté de gangster, oligarque d'aujourd'hui, En même temps, j'ai fini par comprendre cet homme qui a plongé dans ce monde mercenaire de la télé-réalité. Et de voir que quelque part il y est arrivé et qu'il est passé à la politique. Parfois, quelque part, le milieu qui vous invite à le rejoindre, eh bien, c'est le meilleur pour vous. Et donc, je pense qu'il y a vraiment l'idée du complicité.
C'est marrant, quelqu'un lui dit à un moment, vous êtes un artiste pour les politiques et un politique pour les artistes. C'est un bon résumé du personnage.
Yes, who wrote that line?
Oui, qui a écrit?
C'est Olivier qui l'aime.
Yes, it is, it's true.
Mais c'est surtout cet homme, on a l'impression qu'il a tout compris avant tout le monde. C'est un joueur d'échecs qui a trois coups d'avance, qui a compris son époque, en fait.
Yes, I mean, I took the title quite seriously.
Oui, j'ai en fait, moi, compris le titre du film, je l'ai pris très au sérieux, ce côté mage. Essayer de voir à travers la boule de cristal. Et pour ensuite manipuler, pour ensuite, quelque part, tirer les ficelles. Il est dans l'ombre.
He was a director. He wasn't the,
il était metteur en scène de théâtre.
Oui.
Il ne voulait pas être vedette. Hein. Il voulait être réalisateur. C'est ça qu'il voulait faire.
Needed the Vladimir Putin character.
Il avait besoin d'un personnage comme Poutine. Et Poutine avait besoin de lui. Donc, quelque part, ils se sont trouvés. Et ils ont permis, finalement, à chacun de grandir.
Puis, finalement, j'ai l'impression que c'est son intelligence qui a conduit son ambition.
Well, that's nice.
Ah, ça pas
I
mal.
Do think he is highly intelligent.
Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent.
I think he is grandiose in the way an artist is.
Il est assez grandiose, comme un artiste, qui est entouré de livres et qui, sans cesse, veut
wanting to be somebody, right?
Être quelqu'un.
To be somebody.
Être quelqu'un.
So he was able to use his intelligence.
Et donc, il a été vraiment dans la position de pouvoir utiliser cette intelligence.
Mais
je ne suis pas certain qu'il soit complètement dans le bon.
Et c'est aussi la voix de son maître avec Poutine, comme dans cette scène où il rencontre les responsables de la télévision. Excusez-nous, Paul, ça va être en français. Vous êtes un peu, vous êtes doublé en français parce que nos auditeurs ne parlent pas tous anglais.
Je la regarde, votre émission de marionnettes politiques, et quelquefois, c'est vrai, il m'arrive de rire. Je l'avoue. Sauf qu'hélas, le Premier ministre, lui, a un tout autre sens de l'humour. Il est convaincu que M. Gosinski veut absolument lui faire du tort.
Mais jamais de la vie, il peut être rassuré.
Dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour le dire en personne. Vous représentez le Premier ministre Vladimir Vladimirovitch Poutine comme un nain.
Non, c'est
un abo difforme manipulé par les oligarques.
Disons que, dans l'esprit des humoristes, c'est plutôt un enfant.
Oui, exactement. Représenter M. Poutine en nain infantile, c'est ça votre humour?
C'est une émission satirique.
C'est au Premier ministre de déterminer la limite entre satire et insulte, d'autant plus en cette période d'élection. Le Premier ministre a déterminé une limite qu'on ne doit pas franchir. Et j'espère que M. Gosinski saura deviner où est cette limite. Sinon, il le découvrira à ses dépens. Au revoir.
Olivier Assayas, parfois, quand c'était pas assez juste, Paul Dano faisait des réflexions sur certaines de ses répliques. J'ai pu lire ça.
Oh bah, je sais plus comment ça se formulait, mais enfin, moi, je suis toujours ouvert à tout ce qui est ajout, improvisation, création. Je crois que Paul est quelqu'un qui aime être cadré et avoir des repères très précis pour construire à l'intérieur de ces repères. Mais enfin, moi, je suis disponible. J'aime pas entendre les acteurs dire mon texte. J'ai besoin qu'ils se l'approprient. J'ai besoin que ça soit, d'avoir
il est étonné,
que
Paul
c'est eux qui parlent.
Ah oui.
J'ai besoin d'être comme le premier spectateur,
d'étonné,
surpris, à la fois par le jeu et par le texte. Et alors il y a des acteurs qui aiment ça plus ou moins. Et moi, ce que je fais, c'est mon travail de mise en scène, c'est de m'adapter à la demande des acteurs, d'être à l'écoute de ce dont ils ont besoin.
Et Paul Dano, vous aviez aussi envie de le surprendre, Olivier Assayas, par rapport au.
I think it's always good when you
surprise. C'est toujours bien quand on surprend ses partenaires et son réalisateur. Je pense que c'est un sentiment agréable. On a l'impression d'être en vie. Je dirais que ce scénario écrit par Olivier et Emmanuel était tellement fort. Je ne me rappelle pas que j'ai eu envie de changer des choses. C'était plutôt des questions pour savoir si j'étais sûr de la logique, du sens.
Mais
nos conversations avec Olivier, on parlait du texte, mais c'était surtout dans cet esprit, l'esprit de collaboration, pour aller vers la vérité la plus profonde de la scène.
Olivier Sagas, Paul Dano dit « Mon travail, c'est de devenir une sorte d'expert sur le sujet du film. » Il n'y a pas beaucoup d'acteurs français qui peuvent dire ça, non ? C'est plutôt une école américaine ou pas ?
Ben, on dit ça. Moi, je sais pas si c'est si vrai que ça. Parce que, par exemple, j'ai travaillé quand même plusieurs fois avec Vincent Macaigne,
oui,
qui donne le sentiment de la désinvolture, qui donne
vous
le sentiment...
Vous parlez de quelqu'un de théâtre aussi, qui travaille aussi.
Oui, mais enfin, c'est quelqu'un qui, en réalité, en dessous de cette apparente nonchalance et désinvolture, et cette légèreté aussi, il y a beaucoup de travail. Et il travaille différemment de la façon dont travaillerait un acteur américain, parce que les repères, j'ai envie de dire, historiques du jeu ne sont pas exactement les mêmes, mais au fond, il y a beaucoup de travail. Alors après, il y a des acteurs qui ont besoin d'arriver vierges sur le tournage. Oui. Moi, je me souviens, ça m'avait frappé avec Kristen Stewart. Elle arrivait le matin, elle lisait la scène, en une lecture, elle avait passé le truc au scanner. Et elle savait son texte au millimètre. C'est comme un animal qui arrive sur scène et immédiatement elle est dans ses marques, elle comprend ce qu'il y a des enjeux, elle propose une ou deux variations, etc., mais à peine, et c'est immédiatement parfait. Et elle a besoin de ça. Elle a besoin d'être vierge et de pas avoir trop laissé macérer le texte en elle.
Paul Dano, vous êtes de l'école de Kirsten Stewart ou d'une autre école alors ?
I think I'm probably more of a learn your skills than forget
Moi,
them person.
Je suis plutôt quelqu'un qui aime faire son travail et travailler en amont plutôt que laisser faire. La préparation me donne de la confiance. Et c'est comme ça comme j'apprends. C'est comme ça que je reste curieux. J'essaie d'être un personnage plutôt que moi-même. Je veux être clair.
School,
il n'y a pas d'école.
Non.
Vous voyez, la chose la plus importante, c'est que chaque artiste découvre son cheminement pour faire quelque chose. Et ça demande beaucoup de répétition, de travail. Et je suis toujours en apprentissage.
On vous a appris quoi à l'école, en fait ?
Addition, subtraction.
Addition, soustraction, multiplication.
L'école de comédien. Drama school.
Wow, that's a real dad joke.
Ah là, ça c'est une
School. I was an English major.
À l'école, en fac, j'avais fait littérature. J'ai étudié avec pas mal de gens. J'ai commencé à jouer très tôt du théâtre. À New York, à 11 ans, j'étais sur les planches à Broadway. Et donc, c'est plutôt en faisant du théâtre que j'ai appris. Et puis, très jeune, j'ai eu la chance qu'on me demande de faire des accents, de faire des choses en costume. Et puis, j'ai croisé des professeurs. C'était pas tellement en cours, c'était plutôt en tête-à-tête. Tous les 5 ans, j'ai l'impression que je me dois de remettre les compteurs à zéro et de me dire pourquoi. Est-ce que je fais ce que je fais pour ne pas m'ennuyer
et cette voix très
me retrouver coincé.
Et cette voix très douce que vous avez pour Baranov, c'est vous qui l'avez trouvée, cette tonalité, comme s'il chuchotait à tout le monde, en fait.
Ouais, je ne sais pas pourquoi ça m'a semblé juste.
C'est juste.
Parce qu'il y a pas mal de textes. Et la langue, quelque part, c'est son arme pour séduire. Elle exprime son intelligence, comme vous l'avez dit. Je pense que c'était de l'histoire d'un sentiment de aussi, quelque part, manipuler les gens. Et sans avoir l'air d'être celui qui a le pouvoir. Et ces outils de pouvoir, de les garder secrets, et travailler avec cette langue, essayer de trouver mon cheminement dedans, ouais, c'est comme ça que c'est venu.
Alors, il y a une scène où vous rencontrez enfin Poutine, qui arrive à 46 minutes du début du film. On va l'écouter et on en parle après.
How are my ratings?
J'en suis où dans les sondages?
Elections are coming, Bardia.
Les élections approchent, Vadia.
Tu n'as pas vraiment à t'inquiéter, autour de 60%. Le candidat suivant plafonne à 12%.
Cela ne m'intéresse pas, ils sont insignifiants. Il y a pourtant un Russe qui est plus populaire que moi.
Staline.
Je crois qu'il est mort depuis quelque temps maintenant.
Vous, les intellectuels, vous persistez à dénoncer les horreurs du goulag. Vous croyez que Staline était populaire en dépit des tueries. Vous avez tort. Staline était populaire à cause des tueries. Il savait comment traiter et châtier un voleur ou un traître. Tu sais ce que Staline a fait quand les trains soviétiques ont déraillé les uns après les autres?
Non, je ne sais pas.
Il a fait fusiller le directeur des chemins de fer pour sabotage. Ça n'a pas résolu le problème et peut-être que ça l'a même aggravé, mais il avait besoin de trouver un exutoire à la rage. La rage est une donnée structurelle. Ça ne sert à rien de la combattre, il faut simplement la gérer.
Si je comprends bien, tu veux nourrir la rage.
Oui, les gens veulent voir tomber une tête.
En fait, j'évoquais, Paul Dano, la scène où vous rencontrez Poutine dans son petit bureau pour la première fois. La première fois que j'ai vu le film, j'ai pas remarqué, parce que la première fois qu'on voit le film, on se dit « Oh, waouh, c'est Jude Law qui joue Poutine !» Donc on regarde Poutine. Et la deuxième fois, je vous ai regardé, vous, pourtant vous n'êtes pas en gros plan, vous êtes de côté de profil, mais vous le scrutez incroyablement, c'est-à-dire que vous le rendez, vous le scrutez pour essayer de le comprendre. C'est ça aussi le jeu d'acteur. C'est de jouer sans forcément être filmé par une caméra.
Yes, I mean, if you are always searching through the scene.
On est tout le temps à la recherche de quelque chose, d'une vérité dans la scène, que vous soyez dans le cadre ou pas. Et Baranov, quelque part, je pense qu'il était en train de comprendre la situation. Barovsky est quelqu'un qui parle vraiment très fort. C'est une grande gueule. Et là, on a quelqu'un de très calculateur, très intelligent, et il attend. Et c'est ça son pouvoir. Il parle pas avant d'en avoir besoin. Et là, il parle et il est extrêmement précis. Peu importe que l'on ait du texte ou pas, c'est la même scène.
C'est ça, on va donner la réplique, vraiment la donner, c'est avoir une expression sur son visage qui fait qu'on comprend ou qu'on écoute l'autre. C'est ça aussi le métier d'acteur.
Yes, I mean, you have to trust that the camera is seeing your thoughts.
Savoir que la caméra saura voir votre pensée. Elle saura prendre et choper ce qui vous traverse.
And I think that we just saw a clip of a film I did called Little Miss Sunshine many years ago, and a character that doesn't speak.
Et là, on a vu récemment un extrait avec un personnage qui ne parle pas du tout. Et depuis très jeune, j'ai beaucoup aimé communiquer sans mots.
Cette scène, elle était importante pour vous, Olivia Sayas, parce que vous vous doutiez bien que c'est cette scène où on découvrait Poutine.
Oui, cette scène, elle a une spécificité, c'est qu'elle est quasiment documentaire, en réalité.
Oui.
C'est-à-dire parce que en fait, la porte s'ouvre, on est sur nos deux personnages, Berezovsky et Baranov, qui entrent dans le bureau de Vladimir Poutine, et là, on voit tout d'un coup apparaître Jude Law en Poutine.
Oui.
Et qui les fait asseoir, et on reste 2 minutes avec lui, quasiment en plan séquence.
Oui.
Et c'est le premier jour de tournage de Jude Law,
oui.
Sa première scène,
oui.
Et c'est la première prise de cette première scène.
Oh là, oui.
Donc on voit littéralement le moment, on est avec l'équipe, avec
oui.
Moi d'ailleurs, quand tout d'un coup on voit littéralement Jude devenir Vladimir Poutine.
Oui.
Et ensuite, on a fait d'autres prises différentes, d'une écriture différente, et qui pour moi étaient plus banales. Celle-là avait cette intensité qui était celle, tout d'un coup, de poser quelque chose de très difficile, de très ambitieux, sur lequel on travaille depuis très longtemps, immédiatement, sans répétition, sans repère, et on documente ce moment-là.
On va écouter Jude Law parler de son rôle et de votre direction sur lui. Désolé, encore une fois en français, mais Harold va vous traduire.
Olivier was very clear that he didn't really want us to use prosthetics, that it wasn't
Olivier était très clair. Il ne voulait pas de maquillage prothétique. Il ne s'agissait pas de mimer la physionomie de Vladimir Poutine. Il fallait que j'essaie de trouver son caractère propre dans cette histoire.
Donc
on m'a recommandé plusieurs livres, des biographies et des journalistes qui examinaient les débuts de sa carrière. Sans compter d'innombrables vidéos passionnantes à voir, des documentaires exceptionnels et toutes les interviews qu'il a faites. C'est un sujet passionnant. C'est quelqu'un de captivant à étudier.
So once I started, even though Olivier obviously didn't particularly want me to obsess over it, it's hard to kind of close a lid on.
Donc même si Olivier ne voulait pas que j'en fasse une obsession, c'était difficile de m'arrêter. C'est une question inépuisable, avec tous ces points de vue, toutes ces opinions à son sujet. J'étais bien conscient qu'au début, la tâche me semblait gigantesque. Et Olivier me l'a simplifié en me disant, nous ne racontons que cette tranche de son histoire. On regarde un iceberg, mais on se concentre sur un glaçon. Du coup, ma préparation a été moins stressante. Il a aussi précisé que c'était une histoire. Donc, il ne fallait pas le mimer à la perfection. Il fallait l'introduire dans cette histoire avec une certaine véridicité.
Olivier Assayas s'est quand même gonflé d'avoir pensé à Jude Law pour lui. Pourtant, il vous est apparu, Jude Law en Poutine.
Oui, il y a aussi le fait qu'on se connaissait un peu. On était ensemble,
oui, mais ça
au jury.
Pas que...
Ah ben non, mais ça explique, parce qu'on passe quand même, on était dans un jury ensemble, on a passé 10 jours ensemble à parler de cinéma, on apprend des choses quand à travers ces conversations. On sait avec qui on a plus ou moins d'affinité et sur quel registre.
Vous avez vu le dictateur qui se cache sous
Jude Law? Non, pas exactement, mais je voyais un acteur qui aime se transformer. Qui a une intelligence intuitive d'acteur, mais et puis qui peut jouer sur différents registres, et que justement le personnage de Vladimir Poutine, comme je l'imaginais, enfin parce que moi je m'intéresse pas tant que ça à Poutine, moi, je m'en fiche de Poutine. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment la question du pouvoir et le fait que à ce moment-là, le pouvoir, on est à un moment historique où se réinvente ou se redéfinit la politique contemporaine, et donc pour moi il fallait au contraire aller chercher plutôt une forme d'universalité qui nous était donnée par l'utilisation de la langue anglaise par ailleurs. Enfin, même si de toute façon on était contraint par le financement du film à le faire en anglais, il y avait quand même cette idée que ce qui nous intéressait, ce qui intéressait Jude qui m'intéressait, c'était trouver dans ce personnage de Poutine quelqu'un qui représente quelque chose du pouvoir, de l'absolu du pouvoir.
Oui, il n'y a pas besoin de ressemblance.
La ressemblance. Aller chercher le sosie qui aurait imité Poutine, ça n'avait aucun intérêt parce que ça réduisait notre film, ça réduisait le récit.
Paul Dano, je pense que c'est Baranov qui dit ça dans le film, je veux être un acteur de mon époque, pas un témoin. Alors, vous êtes un acteur, mais en tant qu'acteur, vous pouvez aussi être témoin de votre temps, avec le miroir qui se reflète sur le Poutine actuel. De ce point de vue-là, c'est important, un film pareil pour vous.
It is, although
tout à fait. I will say that the, mais j'ai envie de dire que c'est que j'ai d'abord rougi en apprenant qu'Olivier voulait travailler avec moi, parce que je connais ses films. Et j'ai lu ce scénario, et quand j'ai refermé la dernière page, je me suis dit, si jamais je veux être acteur, il faut que je le fasse. Quand un cinéaste comme Olivier vous offre une telle nourriture pour l'esprit, on a beaucoup de chance. Et après, on se dit, oh merde, j'ai dit oui. Parce que c'est un pari énorme, et aussi parce que, à cause du sujet. Mais la première réaction, c'est d'abord l'instinct, avant tout, plus que ce qui est important ou quoi que ce soit. Et après, on se rend compte de ce qu'est le film, et on se dit qu'on s'est engagé dans quelque chose et on panique. Et c'est pour ça qu'il faut travailler dur.
Je vais vous poser une drôle de question, Paul Dano, parce que vous êtes américain. Est-ce que vous voyez des points communs entre Poutine et Trump ?
Well, sure. I mean, I think that one of the important things about this.
Ah oui, bien sûr. Une des choses très importantes dans ce film, c'est qu'il ne parle pas que de la Russie. C'est de la politique contemporaine, le théâtre du pouvoir. Et ce que l'on voit aussi en jeu, c'est que ces techniques, elles se sont développées depuis. Ce qu'on voit dans le film, c'était très explicite aux États-Unis. Créer le chaos. Il faut être, avoir une image forte au centre, se trouver au centre. Il faut toujours être finalement l'homme fort. Et ça, ce sont des outils pour quelqu'un qui veut être, incarner l'autorité. Auprès aussi des gens, je dirais, mais aussi les tactiques. C'est une des choses que j'ai beaucoup appréciée dans ce film.
D'ailleurs, votre compagne dans le film dit à Hollywood, seuls comptent les rapports de pouvoir. Elle dit ça, c'est une des répliques du film. C'est vrai ? Oui, les relations. Les rapports de pouvoir. Oui.
J'en suis pas certain. C'est pas tellement ce que j'ai vécu. Pour ce personnage, j'ai dû d'abord me demander ma propre relation avec le pouvoir. Est-ce que je le veux ? Est-ce que je veux m'en cacher ? Est-ce que c'est en moi, ça ? Pourquoi est-ce que moi, je joue ce personnage ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quels sont les côtés de ma personnalité qui fonctionnent par rapport à ça. J'ai toujours essayé dans mon travail d'être moi-même. Et de, effectivement, être au centre de lutte de pouvoir, mais ça n'est pas ce qui m'attire du tout.
Et enfin, cette question, vous dites « Je me demande toujours ce que je peux apporter au film et ce que le film peut m'apporter ». On sait maintenant, après avoir vu ce film « Le match du Kremlin », ce que vous apportez au film. Mais qu'est-ce que le film vous a apporté à vous ?
That's a good question.
Ça, c'est la bonne question.
The look behind the curtain.
Je dirais de regarder de l'autre côté du rideau. J'ai tellement appris sur l'histoire contemporaine, sur la Russie.
I did learn about modern politics.
J'ai beaucoup appris sur donc la politique d'aujourd'hui.
And I think I also learned as an actor.
Et j'ai aussi en tant que comédien.
I can quantify that at the moment, but
je sais pas si je peux vraiment trouver les mots aujourd'hui, mais je sais que ça a été un pari chaque jour.
And I will say one of the takeaways for me.
Et je dirais que ce que j'en retiens dans ma vie,
how important it is to be surrounded by.
C'est que c'est très important d'être entouré, d'être bien entouré, des gens que vous aimez, que vous admirez, des gens auxquels vous avez confiance. Parce qu'il y a eu des jours où c'était difficile sur ce tournant. C'est quand même un pari. C'est un film qui parle de notre époque. Et j'étais ravi d'être aux côtés de quelqu'un comme Olivier.
Le match du Kremlin sort mercredi prochain. On va citer les autres acteurs, Olivier Assayas, Alicia Vikander, bien sûr, qui joue sa compagne, et auquel vous donnez un rôle plus important que dans le livre, Tom Sturridge, Will Keen ou Jeffrey White. Vous restez avec nous tous les deux. On se retrouve après Long Jones.
Some day it's a bubble, no struggle. Up early, dressed like old folk. You've been waiting for trouble. Every corner covered, the limes crushed, the mint muddled. You talk to me in other people's words. You don't believe enough to burn. You, me, and each other. Before I leave, I'ma leave with something. Somewhere in Shibuya, they playing my songs. I built the bomb when you weren't looking. Rewriting my right is wrong. Judge question if those lyrics are mirrors. Riot dawn. Looters list but forgot mirroring. Out sloganeering at the butcher asking for fake beef. Smart dumb night, swayed in the summer all night. Thick air, rain and thunder. Eyes like the hunted, a debtor of the sun. Zero sum, spelling fun like empire. Can't be just one. They said be gone, but we're not done.
Remember when I woke again, I saw my storm, she was a friend. Her work so it never ends. We woke up just to play pretend. Tighten up, tighten up, tighten up, tighten up, tighten up, tighten up, tighten up. Rewriting will make amends. Remember when I woke again, I saw my storm, she was a friend. Her work so it never ends. Tighten up, 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 tighten up.
That Illuminati, that naughty. By nature, burnt cork on sun-scorched bodies. Drop Godspeed, off to go. On a basis between need to know and ought to know. Neither felt optimal. Giving up ghosts for land.
break fast with toast, butter on both sides. My Nazi by proxy, rock eight evil eyes. We not people, you hold hate for those I hold close, this ain't it, boo. Go sit at the other side of the cafeteria, eat shit, boo. Niggas be flipping, splitting the difference, dipping. What you speak, nonsense on ninjutsu. True power gives power, we ain't gon' get power if I was can't give power. All hands in, fingers saucy, share plates. We ate great, and jitter, extra sour. The witch an hour, now pay cents on a dollar. Inshallah, Lord knows, y'all tryna make a serpent a scholar. Wow, I done seen it all. Slave savers, baby, done been it all.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Les films sortis mercredi, on va commencer par l'affaire Bojarski, Laurent, de Jean-Paul Salomé, avec Reda Kateb, Sarah Giraudeau, Bastien Bouillon, Pierre Lotin. Yann Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il fabrique des faux papiers après la guerre. Son absence d'état civil l'empêche de déposer les brevets de ses inventions. Jusqu'au jour où un gangster lui propose de fabriquer de faux billets. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l'inspecteur Mattei, d'après une histoire vraie.
Oui, quelle affaire, hein. Il paraît que dans les années 50, moi j'étais pas né, on disait « Ah, c'est un Bojarski à propos d'un faux billet très bien fait ». Bon, on n'a pas connu cette heureuse période. la fausse monnaie, évidemment, c'est du pain béni pour le cinéma, on le sait bien. Il n'y a pas seulement l'œil cave se rebiffe, ce petit chef-d'œuvre, mais on est évidemment fasciné par ce virtuose du faux Talbin, comme on dirait chez Audiard. C'est de la délinquance artistique vers laquelle on est plus indulgent. Mais dommage quand même que Jean-Paul Salomé, moins inspiré que pour sa syndicaliste avec Huppert, fasse si peu de cas au fond de ce qu'aurait pu avoir de flamboyant, de plus dramatique aussi son personnage. Son Bojarski est un peu lisse, il fait certes vaciller quand même la Banque de France, hein, c'est énorme, on sent pas tellement cette dimension-là, c'est un peu de la contrefaçon à bas bruit.
Eleonora Duse de Pietro Marcello avec Valeria Bruni Tedeschi, portrait d'une actrice italienne légendaire, l'équivalent de notre Sarah Bernhardt, la divine donc au terme d'une carrière légendaire à la fin de la Première Guerre mondiale et qui décide de remonter sur scène, les relations ombrageuses avec sa fille, celle complexe avec le poète D'Annunzio, la montée du fascisme, l'arrivée au pouvoir de Mussolini, le mélange d'archives plus l'utilisation de musique contemporaine, autant ça marchait pour Martin Oden, ça marche un petit peu moins pour celui-là, mais tout comme Sandrine Kiberlin dans Sarah Bernhardt à la Divine, le grand atout de ce film s'appelle Valeria Bruni Tedeschi, totalement habité par le rôle, Laurent.
Oui, alors moi j'avoue que je ne connaissais pas Eleonora Duse avant de voir le film de Mankiewicz, Eve, sur les actrices, dans lequel elle est citée aux côtés de Sarah Bernhardt comme une sorte d'actrice merveilleuse. Donc c'est la rivale effectivement de Sarah Bernhardt, ici jouée par Noémie Lvovsky.
Génial.
Toujours génial, comme toujours. Alors c'est vrai, le bon choix, c'était de ne pas faire un biopic, c'était de centrer sur les années 20 où l'Italie est en train de basculer vers le fascisme. Malheureusement, Pietro Marcello ne se sert que de rares images d'archives pour donner cette tonalité-là. Ouais. Et du coup, il recentre son propos uniquement sur l'actrice. C'est dommage parce qu'il avait, je pense, l'occasion d'être beaucoup plus prenant et beaucoup plus dense et rigoureux sur ce portrait. Évidemment, comme vous le disiez, Valeria Bruni Tedeschi, absolument exceptionnel, ça c'est pas douteux.
Sans pitié, premier film de Julien Osmalin, inspiré de son histoire familiale, un drame dans l'univers des forains, et un thriller, et un film de vengeance, violence du passé, loyauté fraternelle, et rédemption.
Oui, alors c'est vrai, sur cette plongée dans le monde forain, sous couvert de films de vengeance, et de polar ultra-violent, aurait pu être passionnante et pertinente, ce sont malheureusement les aspects les plus anecdotiques qui l'emportent, hein. Assez peu intéressé par ce qui se passe. Le metteur en scène est absolument lui fasciné manifestement par les motos et le vacarme des pots d'échappement. Ça ne suffit pas à faire un film, d'autant plus que les dialogues sont d'une pauvreté assez affligeante et des personnages plutôt attendus.
Palestine 36 d'Anne-Marie Jassir, cette cinéaste palestinienne, la grande révolte arabe destinée à faire émerger un État indépendant se prépare alors que le territoire est sous mandat britannique. Une grande presque, un film engagé sur un épisode moins connu que la Nakba, l'exode des milliers de Palestiniens, mais fondateur dans l'histoire des Palestiniens, et un scénario construit autour de ces questions, fuir ou rester, se résigner ou entrer dans la lutte, Laurent.
Oui, c'est vrai qu'on a envie en ce moment de voir des choses, peut-être de lire et de voir des choses peut-être plus apaisées sur ce qui se passe.
Qui nous rappelle l'histoire.
Qui nous rappelle l'histoire, bien sûr. Malheureusement, je dirais que quand même la réalisatrice, dans sa volonté légitime de raconter le peuple palestinien et ce moment très important, nous enferme quand même dans une vision assez caricaturale, hein, parce que les Britanniques d'abord et les kibboutzim ensuite, on ne peut pas dire qu'ils soient traités autrement que par des silhouettes et par ce qui finit par être des clichés. Donc c'est un petit peu dommage parce que cette succession de tableaux didactiques finit par perdre totalement en complexité et c'est ça qu'on attendait.
Fursi, né libre, deuxième réalisation du rappeur et écrivain Abdelmalik. Île de la Réunion 1817, à la mort de sa mère, l'esclave Fursi découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Il se lance alors dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits. Ce n'est pas un film sur l'esclavage, dit Abdelmalik, mais un questionnement sur l'abolition, la justice, l'éducation.
Oui, on sait évidemment gré à Abdelmalik d'avoir porté sur grand écran et pour le grand public, il faut le dire, cette histoire beaucoup trop méconnue. Pas étonnant aussi que le poète, le chanteur, l'écrivain Abdelmalik ait été attiré par cet homme, cet esclave qui se bat pour sa liberté, non pas avec ses poings, mais avec ses mots et ceux de la justice. Dommage peut-être simplement que le film s'enferme parfois dans un didactisme plutôt pesant et contre-productif. Contre-productif, pardon, du coup, reste un casting notamment réussi grâce, et on parlait de lui tout à l'heure avec nos invités, grâce à un Vincent Macaigne absolument parfait,
ah oui,
en esclavagiste ordure. Voilà, faut le dire.
Abel, premier film du Kazakh, Elzat Eskandir, Kazakhstan, 1993. Dans le post-communisme, alors que les fermes sont démantelées, les dirigeants locaux se partagent les ressources. Abel, éleveur local, voudrait juste sa part. Question, doit-il jouer le jeu de la corruption ou défendre ce qui lui paraît juste?
Oui, c'est un premier film très très intéressant qui s'intéresse à une période charnière, 1993, deux ans après la chute du mur de Berlin, voilà des choses qu'on vient d'évoquer. Là, ça se passe à la campagne, dans une ferme qui est en train évidemment de basculer dans une nouvelle économie. C'est exactement le moment que décrivait Gramsci quand il dit « la crise, c'est quand le vieux n'arrive pas à mourir et que le jeune n'arrive pas à naître ». Abel, le héros, le personnage principal, en est là. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est la façon dont le réalisateur montre comment, par exemple, la corruption commence déjà à tout gangréner et à prendre le pouvoir, tout en filmant avec beaucoup de grâce et d'intelligence les immenses espaces environnants.
Forêt Rouge, un doc de Laurie Lassalle au fil des bouleversements que la ZAD de Notre-Dame-de-Lande traverse. Depuis l'abandon du projet d'aéroport, la forêt se transforme en territoire de lutte.
Oui, alors c'est, elle avait déjà signé un documentaire, Laurie Lassalle, Boum Boum en 2022, où elle mélangeait allègrement les gilets jaunes et ses intermittences du cœur. Là, elle déplace le truc avec les militants écologistes de la ZAD et un regard, très beau regard porté sur la nature. Et évidemment, c'est tout à fait pertinent par rapport au combat décrit. On peut simplement parfois lui reprocher une certaine monotonie dans la façon de filmer tout ça.
Et enfin, une reprise qui date de 55, Le rendez-vous des quais de Paul Carpita.
Merveille de 1955, trop à gauche à l'époque, et 35 ans de purgatoire. C'était dans la lignée de Tony de Renoir, et oui, ça a annoncé les films de Guédiguian. Bref, c'est un film charnière, c'est un film très important.
Deux festivals avant les cadeaux, Laurent.
Oui, bien sûr.
Le grand festival d'Angers, premier plan.
Le grand festival d'Angers qui commence aujourd'hui jusqu'au 25 janvier, seront présents Juliette Binoche, Laetitia Samir Guess, Thomas Caillé en est le président, et il y a à Angers cette chose formidable que nous aimons tellement, ce sont les lectures de scénarios, ouais, devant des foules entières, on lit des scénarios, ouais, c'est absolument surréaliste, mais c'est extraordinaire aussi. Et puis est en cours également le Festival International du Film Politique, c'est sa troisième édition à Carcassonne, avec évidemment, je dirais-je, la guerre en Ukraine qui tient une place centrale dans le festival.
Maintenant, il nous reste deux minutes pour quatre cadeaux, ça va.
Tout va bien. Pour vous, Paul Dano, il en sort saute. Deux films américains, on ne sait pas si vous les connaissez. Le premier est avec un de vos confrères qui s'appelait James Stewart. Il date de 1936. Il est d'un certain Griffith, mais pas celui que nous connaissons habituellement. C'est édité par Elephant et c'est, on peut dire, presque un mélo comique. Voilà, vous, apparemment vous ne le connaissez pas, ben on est très très heureux de vous l'offrir. C'est une belle découverte. Une autre découverte, mais alors là, vraiment, on y tient beaucoup parce que c'est un film de Preston Sturges. Je vois Olivier Assayas frétiller à l'énoncé de ce nom parce que c'est un cinéaste que les cinéphiles adorent. Ça s'appelle The Great Moment et filmé la mer avec des moments de comédie. C'est ce que disait Sturges. C'est une véritable rareté. C'est le biopic d'un médecin et là aussi, c'est chez Elephant. On est heureux de vous l'offrir.
My goodness, this is. I'll come back soon.
Mais je vais revenir
quand vous voulez.
Je suis tout content là.
Pour wow. vous, Olivier Assayas, on sait votre tropisme asiatique d'une manière cinéphile. Left Handed Girl, Undead Girl, pardon. Est-ce que vous avez vu ce film?
Oui, je l'ai vu. J'aime beaucoup. Bon. Et j'ai même envie de dire que c'est le film chinois auquel je me suis le plus intéressé depuis fort longtemps.
C'est vrai.
Eh bien, nous partageons. Ah, oui. Nous partageons. Absolument.
J'étais assez épaté parce que ouais. je trouvais pour moi c'était un peu le retour du cinéma taïwanais qui, avait, un peu, qui avait un peu qui battait de l'aile et qui
trois
avait un peu disparu.
Ouais, trois
et là,
destins
tout d'un coup, c'est un beau film.
Tourné à l'iPhone ouais. et monté par Sean Baker.
Par Sean Baker.
Au marché de Taipei. Ouais. Et c'est un premier film et c'est le Pacte qui l'édite. Et puis, petite surprise comme ça, petit bonbon, La Folle Alouette, un film avec Claudette Colbert. Vous qui aimez les actrices, je suis
j'aime
certain
beaucoup,
que ça pourra.
Claudette Colbert.
Mais évidemment, mais nous tous, et c'est une comédie qui était inédite en vidéo. Voilà.
Ce fut un honneur de vous avoir, Paul Dano, ce matin. Vraiment, merci beaucoup
merci.
Pour votre participation, pour
deux.
Ce grand rôle de Baranov dans Le Mage du Kremlin. Merci Olivier Assayas, votre film, votre grand film, sort mercredi prochain. Merci à votre traducteur Harold Manning, merci aussi à Riyad Kerat. Merci à notre réalisatrice Valérie Ayestaraï, à Benjamin Ducy qui a préparé l'émission, à Olivier Rioux et aux manettes ce matin, Selim Gheribi.
C'était On aura tout vu sur France Inter.